Bonjour. Alors, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est très important parce que je correspond avec beaucoup de monde qui me demande la prière et des fois les choses arrivent tout de suite, des fois c'est plus long et il y a beaucoup de raisons parce que nous sommes en communion dans un monde spirituel et il faut comprendre ce qui arrive, il faut comprendre les choses. Si on les comprend pas, on risque de se décourager et puis même de perdre la foi. Alors, écoutez bien ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est très important, surtout pour vous qui êtes malades ou qui vous occupez des malades dans la prière. Lisons 2 Corinthiens 12, 7. Je commence. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « À cause de l'excellence de ses révélations, donc des révélations qu'il avait reçues de Dieu, aussi pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs pour qu'ils comprennent bien les niveaux et les enjeux qui sont dans tous ces combats de la prière, au nom de Jésus. Amen. » Paul avait fait une expérience qui était absolument hors du commun. On n'est pas tous l'apôtre Paul. Et il a gardé son secret pendant 14 ans. Écoutez, on lit ça dans 2 Corinthiens 12, 2. Écoutez ce qu'il dit. « Je connais un homme en Christ, voici 14 ans. » Était-ce en son corps, je ne sais pas. Était-ce hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais qu'un tel homme, est-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Fut enlevé au paradis et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer. Donc, il parle de lui, mais il dit, je connais un homme parce que bon, voilà, il ne veut pas se vanter. Alors, 14 ans, ça s'appelle la maîtrise de soi. Il a tenu sa langue 14 ans. Lui qui avait été transporté au paradis dans une vision absolument ineffable, et il ne sait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps, et en tout cas il est allé au paradis, et c'était quelque chose de tout à fait particulier. Est-ce que le diable n'a pas essayé de le tenter, de tirer gloire de cette faveur exceptionnelle? Non. Paul n'a pas succombé à cette tentation et Dieu qui est sage a permis une chose. Comme Paul refusait de tirer gloire des faveurs que Dieu lui avait faites, le diable lui a planté une écharde dans sa chair, c'est-à-dire une épine, quelque chose qui lui... Une écharde dans... Et tout ça, ça l'a maintenu dans l'humilité. Paul était un homme bouillant. Mais cette écharde, cet handicap dans sa chair, était une réelle gêne dans ses entretiens avec les gens de tous bords, qui étaient en quête de salut. Mais pendant 14 ans, il s'est tu. Paul aurait pu se décourager, mais il avait tout donné pour Dieu, il avait donné sa vie, ses aises, les honneurs, c'est-à-dire une vie facile, brillante, tout. Mais Paul était aussi un homme déterminé. Il a refusé d'endurer ce mal, cette écharde dans la chair, et il a prié, il a lutté dans la prière pour en être débarrassé, jusqu'à ce que Dieu lui donne, non pas la délivrance de cette écharde, mais le pouvoir de l'accueillir comme un bien. Et non de sentir cette écharde, cet handicap, comme une injustice. Dieu lui a dit le pourquoi de son épreuve. On va relire dans 2 Corinthiens 12 au verset 7. « À cause de l'excellence de ses révélations, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. » Vous voyez ? Comme quoi le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Si Dieu a laissé l'adversaire lui mettre une écharde dans la chair, quelque chose pour lui minier, finalement, le diable laisse, le Seigneur Jésus laisse toujours une longueur de corde au diable. Et s'il lui permet de toucher à la santé d'un de ses enfants, c'est pour que cela le rende plus fort. Et pour l'introduire encore plus en avant dans son intimité. Alors, en gros, Je dis que la tentation, le mal suggéré par Satan, devient l'épreuve de Dieu au sujet de la joie complète pour quiconque se soumet. On trouve ça dans Jacques, c'est l'apôtre Jacques qui écrit cela, il l'écrit d'une façon magnifique, Jacques 1, 2, 4, voilà ce qu'il dit. Supposons en effet, Jacques 1, 2, 4, mes frères, mes sœurs aussi, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Vous voyez ? Hébreux 12 aussi. Hébreux 12, c'est un texte absolument magnifique à ce sujet. Voilà ce qu'il est dit là. Hébreux 12, 11, je crois. Il dit... Toute épreuve, il est vrai, ne semble pas être au premier abord un sujet de joie, mais un sujet de tristesse. Plus tard, toutefois, elle procure à ceux qu'elle a formés un fruit de paix et de justice. Vous voyez ? Alors, Paul, c'était pas un douillet. Il a enduré le froid, la faim, la prison, la persécution, la trahison des faux frères, enfin il en a vu de toutes les couleurs, mais il a enduré tout ça avec sérénité dans la louange. Alors bon, pourquoi est-ce qu'il demandait avec vigueur la délivrance de cette écharpe ? C'est parce qu'il ne savait pas pourquoi il avait ça. Il ne comprenait pas pourquoi il avait ce mal, cette maladie dans sa chair. Premièrement, il savait pas pourquoi, et puis alors aussi parce que ça le faisait souffrir. Ça le faisait souffrir parce que ça rendait son contact avec les autres plus difficile. C'était en vue d'un meilleur service pour Dieu qu'il attendait sa guérison, qu'il désirait ardemment sa guérison. Mais bon, au juste, de quoi souffrait-il ? Alors la Bible est pas très claire à ce sujet, l'apôtre en parle pas beaucoup. Mais certains textes nous autorisent à faire un diagnostic. On pense, je pense moi-même personnellement, qu'il avait une maladie des yeux, peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui une ophtalmie purulente. C'est quelque chose d'assez répugnant à voir. Et le dégoût qu'elle inspirait chez les gens qui se trouvaient face à lui ne facilitait pas les rapports de l'apôtre avec les gens. Paul ne voulait pas qu'on s'apitoie sur lui, il voulait pas ça, il aimait pas ça. Oh, pauvre apôtre, je prie pour toi, vous connaissez. Non, Galates 4, 13, 15, écoutez ce qu'il dit. Galates 13, où est-ce que j'en suis là dans mes notes ? Galates 13, 15. Vous le savez, il écrit donc aux gens de Galates, c'est à cause d'une maladie que je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois. Et si éprouvante qu'ait pu être pour vous ma chair, donc cette maladie, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût, ça devait être dégoûtant à voir, vous m'avez au contraire accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. D'où donc, où donc est votre bonheur ? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. C'est là qu'on pense, généralement, ce qui nous laisse comprendre que l'apôtre Paul devait avoir cette maladie des yeux qui était un truc purulent, qui était répugnant, qui inspirait du dégoût, qui aurait pu faire que les gens le méprisent. Vous voyez, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. C'est-à-dire, ah oui, alors toi tu prêches la guérison, puis tu viens, t'es malade comme un chien avec une maladie dégoûtante. Non, ils n'ont pas manifesté cette attitude-là. Et puis il écrivait, aussi, on voit que ça devait être un problème de vue, parce qu'il écrivait toujours en très gros caractères. On voit ça dans Galates 6... Galates 6, 11, où il dit « Vous voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main. » Il écrivait gros parce qu'il ne devait pas y voir grand-chose parfois. Vous comprenez mieux maintenant, mes frères et sœurs, ce que ça pouvait être, cette écharde dans la chair que le diable avait mis dans l'apôtre Paul à cause de l'excellence des révélations qu'il avait eues. Mais quoi qu'il en soit, malade ou infirme, Paul se sent libre de réclamer sa délivrance pour travailler plus efficacement à l'œuvre de Dieu. Il prie ainsi parce qu'il est persuadé, il sait que Jésus a porté ses péchés et ses maladies à la croix, donc Paul savait que Jésus guérit, alors il prie. On lit ça dans 2 Corinthiens 12, 9. Écoutez bien. 1 Corinthiens 12, 9. 12, 8 déjà. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc, cette écharde, cette maladie, hein, il est question de cela dans tout le chapitre. Mais il m'a dit, Dieu lui a parlé, et il lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, mes frères et sœurs, alors que dire? Paul et bien d'autres serviteurs de Dieu ont souffert de maladies et souffrent encore de maladies ou d'infirmités, mais tous ont le droit de prier jusqu'à la délivrance. Comme vous d'ailleurs, vous avez le droit de prier jusqu'à la délivrance. Je dis que nous avons tous le droit légal divin de prier pour notre guérison. Jusqu'à ce que Dieu nous parle clairement, comme il l'a fait à Paul. Tant que Dieu vous dit pas quelque chose à ce sujet, continuez à prier. Tant que vous n'entendez pas la voix réelle de Dieu qui vous dit « ma grâce suffit », vous continuez à assiéger le trône de Dieu. Mais je dis pas qu'il faut que vous entendiez la voix dans votre cœur. Il faut que vous l'entendiez réellement, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Et Dieu peut, il a une bouche pour parler, il peut vous parler, moi il m'en parlait, j'entends sa voix. Il faut que vous entendiez sa voix vous dire « ma grâce te suffit ». S'il ne vous dit pas ça, continuez à prier. La Bible nous enseigne beaucoup de choses sur la persévérance dans la prière. La persévérance est un droit normal. Et cela à cause de certaines choses, je vous en dire une par exemple. Ces choses-là, elles peuvent nous dépasser parce qu'on vit dans un monde matériel et puis voilà, puis on croit qu'il n'y a que ça. Ben non, il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on touche. Il y a tout un monde spirituel. Lisons Daniel chapitre 10, versets 11 et 13. 10, 11, 13. C'est un ange qui vient vers Daniel. Au verset 11 déjà, j'entendis sa voix, et comme j'entendis sa voix, je fus frappé de torpeur, et il tomba sur face contre terre. Alors une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et sur mes mains. Puis il me dit, donc c'est l'ange qui lui parle, il lui dit, Daniel bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à l'endroit où tu es, car maintenant je suis envoyé vers toi, et lorsqu'il me dit ces paroles, je me tins debout en frissonnant. Il me dit, Daniel, n'aie pas peur, car le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, donc de prier, tes paroles ont été entendues. Donc vous, dès le premier jour où vous avez prié, Dieu vous a entendu. Et l'ange dit, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le prince des royaumes de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Quand il parle comme ça, c'est dans le monde spirituel. Vous avez des princes pour chaque pays, pour chaque ville, pour chaque village, des princes spirituels. La Bible nous parle d'autorité, de principauté, d'êtres spirituels dans les lieux célestes qui sont là et qui ont. Et là, il a eu une opposition. Alors il dit, le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'archange Michel, l'un des premiers princes, un prince de Dieu, est venu à mon secours et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis maintenant venu vers toi pour te faire comprendre, etc., etc., etc. Donc, quand vous commencez à prier, il se peut que dans les lieux célestes, il y ait une bagarre, qu'il y ait une opposition. C'est pourquoi il faut que vous persévériez dans la prière. Il y a un combat spirituel dans le monde invisible. Quand on se met à prier, le premier jour que vous avez prié, Dieu vous a entendu, il n'y a pas de problème. Et il envoie son ange de guérison pour vous guérir. En général, c'est l'ange Raphaël, qui s'appelle Raphaël, l'archange Raphaël, qui est prédisposé à la guérison des gens. Et il vient pour vous guérir. Mais il peut rencontrer de l'opposition de la part de certains princes, certains démons qui peuvent s'opposer. Et c'est à vous de persévérer dans la prière. Lui, il a persévéré 21 jours. Nous avons à persévérer, sinon on risque de perdre le combat. Vous comprenez ce que je vous dis là? C'est important. Je vous reparlerai de ces choses pour vous donner d'autres exemples dans la Bible qui disent qu'il faut persévérer dans la prière. Que Dieu vous aide, ne vous découragez pas. C'est un combat spirituel. La prière, c'est pas juste, comme dit Prévert, un petit bruit qu'on fait dans la poussière grise des églises. Non, 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 non. La prière, c'est la puissance. On est puissant dans la prière au nom de Jésus. Mais il faut se battre. Alors, je vous encourage à vous battre. Et puis, si vous n'entendez pas la voix de Dieu qui dit « Bon, mais arrête de prier », ma grâce suffit. Continuez, 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 persévérez, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Amen. Au revoir.